Chapitre 41. En marche vers la lumière et la liberté. Comment exprimer les sentiments de surprise, d'admiration et de joie dont mon âme débordait en ce jour mémorable, lorsque, sortir de l'office divin, seul dans ma chambre, je considérais en la présence de Dieu les merveilles que sa main toute-puissante et miséricordieuse venait d'accomplir sous mes yeux. La foule qui se pressait autour du Sauveur, près d'un tombeau, lorsqu'il cria à Lazare « Sors de là !» et qu'elle vit le mort en sortir, ne fut assurément pas plus étonnée que moi, lorsque je vis, non pas un, mais plus d'un millier d'hommes sortir tout d'un coup du tombeau au fond duquel ils étaient enchaînés depuis si longtemps. Moïse n'était pas rempli d'une voix plus grande que la mienne lorsque, sortir de l'Égypte, il chantait sur les bords de la mer Rouge son sublime cantique. Je veux chanter un hymne à la gloire de mon Dieu, car il a glorieusement triomphé de ses ennemis. Le Seigneur est ma force et ma joie. Il est mon salut et mon Dieu. Je veux lui préparer une demeure au milieu de mon peuple. Il est le Dieu de mes pères. Je veux éternellement publier sa puissance et sa gloire. Cependant, la joie fit bientôt place à l'humiliation. Lorsque, jetant un regard sur moi-même, je sentais combien j'étais indigne d'être l'instrument choisi de Dieu pour une pareille œuvre. Car je sentais bien que tout cela n'était que le commencement d'une réforme religieuse, telle que ce continent n'en avait encore jamais vue. Je comprenais que j'étais appelé à faire marcher mon peuple dans des joies toutes nouvelles et jusqu'alors inconnues pour moi. J'allais donc bientôt me trouver en face des terribles difficultés que Luther, Calvin, Knox avaient rencontrées à chaque pas. Quoique ces hommes fussent des géants, n'avaient-ils pas souvent failli succomber sous le poids de leurs épreuves? Qu'allais-je donc devenir, moi qui me sentais si loin d'eux par la science, le courage et le génie? Pendant la nuit qui suivit mon émancipation, combien de fois n'ai-je pas demandé à Dieu pourquoi il n'avait pas choisi un instrument plus digne de lui pour opérer toutes ces merveilles? J'aurais assurément reculé devant la tâche qui était devant moi, si ce Dieu bon n'avait pas fait entendre à mon âme les paroles mêmes dont il soutient son serviteur Paul. Considérez, mes frères, qui sont ceux d'entre vous qui ont été appelés à la foi. Il y en a peu de sages selon la chair, peu de puissants, peu de nobles. Mais Dieu a choisi les moins sages selon le monde pour confondre les sages. Il a choisi les faibles selon le monde et ce qui n'était rien pour confondre les puissants. Il a choisi les plus vils et les plus misérables pour détruire ce qui était le plus grand, afin que nul homme ne se glorifie devant lui. 1 Corinthiens 1, 26, 27, 28. Ces paroles que je lus et méditais pendant une partie de cette mémorable nuit raffermirent mes forces défaillantes. C'était mon Dieu seul qui avait fait les grandes choses que mes yeux avaient vues. Pourquoi craindre qu'il ne fasse pas aussi les grandes choses qui se préparaient? J'étais faible sans doute, mais il est le Dieu puissant et fort. Je n'avais ni science ni lumière, mais il est la sagesse suprême. J'étais pécheur, mais il est la sainteté même. Il ne m'avait choisi pour cette œuvre que parce qu'elle était au-dessus de mes forces, afin que tout le monde sache que lui était ici, comme partout, le grand architecte, afin qu'à lui seul soit honneur et gloire dans tous les siècles. Si le Seigneur m'en accordait le temps, quel livre intéressant je pourrais écrire sur les luttes, les difficultés, les combats et les victoires morales qui suivirent notre émancipation religieuse. J'introduirais le lecteur dans telle famille jusqu'alors profondément attachée à l'Église de Rome. Le vénérable père arrive de l'office divin et, sans autre préliminaire, dit à sa femme et à ses enfants : Nous avons quitté pour toujours notre Église. Les chaînes ignominieuses qui faisaient de nous les esclaves des hommes sont brisées pour toujours. C'est Jésus-Christ seul qui nous gouvernera à l'avenir par son Saint-Évangile. Le salut éternel est un don de Dieu. J'ai accepté ce grand don ce matin et mon âme a trouvé la paix. Comment dépeindre la surprise, le trouble, la douleur que de pareilles déclarations engendrent en mille endroits? D'abord, on n'en veut rien croire. Tout cela ne paraît qu'une mauvaise plaisanterie. Puis, viennent les discussions brûlantes, les paroles vives, les amers reproches, les sarcasmes et presque la haine. Mais le Dieu de vérité et de lumière, le Dieu de l'Évangile, était au fond de ce grand travail. D'une parole, il eut bientôt calmé toutes ces tempêtes, apaisé ces flots courroucés et ramené le calme et la joie. Quelques jours s'étaient à peine écoulés que l'Église de Rome ne comptait plus que 15 familles à Sainte-Anne. Jésus-Christ en avait enrôlé 405 sous sa croix. C'est ce qu'un prêtre romain fut obligé de constater peu de temps après. Un des faits les plus frappants de ce mouvement religieux fut la détermination prise par les adultes et les vieillards d'apprendre à lire, afin d'étudier par eux-mêmes cet évangile admirable qui venait de briser leurs chaînes et de leur donner la sainte liberté que le Fils de Dieu leur avait apportée du ciel. Plus de la moitié de ces gens n'avaient jamais appris à lire, mais leurs enfants avaient partout l'avantage d'une bonne éducation dans les excellentes écoles de notre colonie. Rien n'était plus touchant que de voir toutes les maisons ainsi que notre grande chapelle converties tous les dimanches et une partie de la semaine en classe, les jeunes enfants étant les instituteurs et les bons parents les élèves. De cette manière, en peu de temps, tous mes paroissiens purent lire la Sainte Bible et se nourrir eux-mêmes du pain qui donne la vie éternelle. Il n'y eut plus bientôt que ceux qui demeurèrent sous le joug de Rome qui étaient restés dans l'ignorance. Un dimanche, j'avais prêché sur le commandement « Tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne les adoreras pas ». Je restai seul en prière dans mon église après que la foule se fut retirée, levant les yeux vers les statues de Sainte-Anne et de la Sainte Vierge. Je leur dis « Mes bonnes dames, le temps est venu où il faut descendre de ce haut piédestal. Nous n'adorons plus ici que Dieu seul. Si vous pouviez sortir de vous-même, je vous prierais poliment de le faire. Mais vous n'êtes que de vaines idoles, vous avez des yeux et vous ne voyez rien, des oreilles et vous ne pouvez entendre, des pieds et vous ne pouvez marcher. Que ferais-je de vous ici, puisque votre règne est fini ?» Je me rappelais alors que le jour où je les avais mises là, je les avais fixées au mur avec un cordon de soie. Je me dis que si je coupais cette attache, elles tomberaient sans doute au premier ébranlement et qu'alors personne ne serait scandalisé de leur chute. Je montais aussitôt sur l'autel et coupais le cordon de soie, sans pouvoir m'empêcher de rire en disant « Mais bonne dame, vous ferez bien de prendre garde à vous-même à l'avenir. » Comme je l'avais prévu, lorsque le dimanche suivant, le peuple réuni dans la chapelle se mit à genoux pour prier, l'édifice trembla comme de coutume et les deux statues, après avoir branlé la tête et fait un mouvement qui, dans de meilleurs jours, pour elles, auraient pu passer pour un salut miraculeux, culbutèrent et furent mises en pièces. Un fou rire retentit à ce spectacle et les gens se disaient qu'ils avaient été insensés de mettre leur confiance dans ces idoles puisqu'elles n'avaient même pu prendre soin d'elles-mêmes. Grâce à Dieu, les derniers vestiges de ce culte sacrilège et impie disparurent parmi nous avec la poussière que nous balayâmes le jour même. Le lendemain, nous arrachâmes les images du chemin de la croix. Dès le commencement de ce mouvement religieux, j'avais laissé mes paroissiens tirer autant que possible par eux-mêmes les conclusions de nos études sur l'Écriture sainte. J'ai eu pour principe de si bien cacher ma main dans les directions que j'avais à donner, qu'ils pouvaient comprendre que j'étais moi-même conduit et soutenu par le bras puissant du Seigneur. J'avais vu avec bonheur, peu après notre sortie de Rome, que l'étude attentive de l'Évangile les avait amenés presque tous à comprendre que le purgatoire n'était qu'une fable inventée par les prêtres pour s'enrichir aux dépens de leurs dupes. Il m'était cependant aisé de voir que quelques-uns croyaient encore à cette imposture. Je ne savais trop comment le déraciner sans les blesser. Après avoir longtemps prié pour obtenir plus de sagesse, j'eus recours au moyen suivant. Lorsque la fête appelée le jour des morts arriva, le 2 novembre, je dis à mes auditeurs « Vous aviez l'habitude en ce jour de collecter de l'argent pour faire dire des messes ou autres prières afin de faire sortir du purgatoire les âmes de vos parents et amis décédés. Vous savez que, depuis que nous étudions l'Évangile, nous n'avons pas trouvé un seul mot pour prouver le purgatoire. Au contraire, d'un bout à l'autre de ce divin livre, nous apprenons que le sang de l'agneau immolé sur le calvaire suffit seul à effacer les péchés du monde et purifier nos âmes coupables. Nous ne trouvons nulle part que nous puissions obtenir notre pardon à prix d'argent. Cependant, je sais qu'il y a encore quelques-uns parmi vous qui croient au purgatoire. Je ne veux pas les contrarier par des discussions inutiles, ni les froisser en refusant obstinément l'argent qu'ils veulent donner pour cet objet. Voici seulement ce que nous allons faire. Nous avons l'habitude de vous présenter une petite boîte où vous déposez votre offrande pour les morts. Cette année, au lieu d'une, il y en aura deux, l'une noire, l'autre blanche. Ceux qui, comme moi, ne croient plus au purgatoire mettront leur offrande dans la boîte blanche et ces offrandes seront données aux veuves et aux orphelins que nous avons parmi nous. Les autres déposeront leurs dons dans la boîte noire. Tout ce que je leur demande, c'est de me dire comment je dois m'y prendre pour faire parvenir leurs aumônes aux morts, car je ne connais pas leur adresse. Je vous confesse que les prêtres de Rome, au lieu d'envoyer cet argent aux pauvres âmes qui souffrent dans le purgatoire, le gardent pour eux. Un sourire général accueillit ces paroles et 35 piastres furent déposés dans la boîte des veuves et des orphelins, tandis que pas un sou ne tomba dans celle des âmes du purgatoire. dès ce jour, je pus bénir Dieu d'avoir lui-même arraché du cœur de ces honnêtes enfants de l'Évangile la croyance au purgatoire de Rome. C'est ainsi que les superstitions et les pratiques idolâtres du romanisme disparurent les unes après les autres. 3 mois après notre sortie de la moderne Babylone, nous n'étions pas moins de 6 000 hommes enrôlés sous les bannières de l'Évangile. Une multitude d'âmes altérées arrivaient constamment des parties les plus éloignées de notre colonie et se désaltéraient avec nous aux eaux pures qui coulaient des fontaines de la vie éternelle. Ils s'en retournaient chez eux en bénissant Dieu et devenaient souvent eux-mêmes des apôtres de la vérité partout où ils passaient. Oh, combien ma joie était grande dans ces jours bénis, lorsque le soir, protégé par les ténèbres, je parcourais les rues de notre village. Partout, j'entendais la voix de ceux qui lisaient les saintes écritures ou qui chantaient nos beaux cantiques. Il y avait dans ces voix comme une mélodie descendue du ciel. L'âme inondée de bonheur, je m'unissais alors au vieux prophète pour m'écrier « Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mais, ainsi que l'or, même le plus pur, doit être éprouvé par le feu, ces nouveaux disciples de l'Évangile devaient eux aussi passer par la fournaise de l'épreuve. Le 27 juillet, un ami m'envoya la copie suivante d'une lettre écrite par Mgr Dugan, le nouvel évêque de Chicago, à quelques-uns de ses confrères. Le schisme de l'apostat Shinichi s'étend avec une rapidité aussi déplorable qu'irrésistible. On m'assure qu'il a déjà séduit plus de 10 000 de ses compatriotes. Je veux croire que ce chiffre est exagéré, mais cela nous prouve que le mal est grand et que nous n'avons pas un moment à perdre si nous voulons en arrêter les progrès. Je me propose de me rendre au milieu même de cette colonie, le centre et la citadelle du schisme, mardi prochain 3 août. Comme je parle le français, presque aussi facilement que l'anglais, je pourrais parler à ce peuple dans sa propre langue. Mon intention est d'abord de démasquer Shinichi et de montrer ce qu'il est. Puis, je prouverai à ces pauvres gens la folie de vouloir lire et interpréter eux-mêmes la Sainte Bible. Ensuite, je leur montrerai qu'il n'y a pas de salut hors de notre Sainte Église. Priez la Sainte Vierge afin qu'elle m'obtienne la grâce de ramener ces brebis égarées dans les voies du salut. Je lus cette lettre au service du premier dimanche d'août et j'ajoutai « On ne connaît pas la valeur d'un homme que lorsqu'il a passé par l'épreuve. Je bénis Dieu de ce qu'il a choisi mardi prochain pour montrer au monde que vous êtes digne de former l'avant-garde de la grande armée qu'il va réunir sous les drapeaux de son évangile sur ce continent. Que chacun de vous vienne donc entendre ce que l'évêque de Chicago aura à nous dire, non seulement ceux qui sont en santé, mais les malades eux-mêmes autant qu'il est possible. Si l'évêque accomplit sa promesse et vous prouve que je vous ai trompé, votre devoir sera de me chasser. Vous devrez obéir à l'ordre qu'il vous donnera probablement de brûler vos bibles et vous soumettre à son autorité. Mais si ce prélat ne peut vous convaincre là-dessus, ce qui est certain, vous savez ce que vous avez à faire. Mardi prochain sera donc pour nous tous un jour béni où un grand combat sera livré entre les principes de la liberté et de la vérité évangélique et les impostures et la tyrannie de Rome. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Dès maintenant, jusqu'à cette heure solennelle, prions sans cesse le Dieu bon et tout-puissant que nous adorons, au nom de son Fils Jésus, notre Sauveur, de nous regarder dans sa miséricorde et de nous donner sa lumière et sa force, afin que nous n'oublions pas ce que nous lui devons, ni ce que nous nous devons à nous-mêmes. Et les anges de Dieu uniront bientôt leur voix à celle des hommes pour vous bénir d'avoir remporté une glorieuse victoire sur l'empire de Satan. Jamais les rayons du soleil n'avaient brillé d'un plus pur éclat sur notre belle colonie de Sainte-Anne que ce 3 août 1858. Vers midi, la foule commença à affluer de tous côtés. Sachant que notre chapelle ne contiendrait pas la 1/10 partie des assistants, nous avions élevé une plateforme bien solide au milieu de la place publique en face de la chapelle. Nous la couvrîmes de tapis et nous plaçâmes un sofa et des chaises pour l'évêque et ses prêtres, aussi bien que pour moi-même. Vers 2 heures de l'après-midi, l'évêque arriva dans un carrosse, suivi de plusieurs voitures remplies de prêtres. Il était revêtu de son costume épiscopal, surplis brodé, bonnet carré violet, afin sans doute d'en imposer plus sûrement à la multitude. J'avais exhorté les gens à montrer autant de respect qu'il convenait à un étranger qui les visitait pour la première fois et je les avais conjurés de ne pas interrompre son discours. Lorsque son carrosse arriva près de la chapelle, je donnai un signal et, en un clin d'œil, le pavillon américain fut hissé au haut d'un mât qui surmontait l'édifice. C'était pour avertir le prélat de ne pas oublier qu'il était au milieu d'un peuple libre et non parmi les esclaves sur la terre de l'Inquisition. Il comprit, car, ayant levé les yeux et vu flotter sur sa tête cet emblème de la liberté, il devint pâle comme un mort. Mais son inquiétude et sa surprise furent bientôt changées en terreur lorsqu'il entendit le cri « Hurrah pour le drapeau de la liberté et des braves !» répété par les milliers d'hommes qui l'environnaient. Il crut que c'était le signal de sa mort et celle de ses prêtres, car on l'avait persuadé que sa vie était en grand danger parmi nous. Voyant son épouvante, je courus vers lui pour l'assurer que nous étions heureux et fiers de le recevoir parmi nous. Je lui offris ma main pour l'aider à descendre de voiture, mais il refusa. Après avoir hésité pendant 2 ou 3 minutes sur ce qu'il avait à faire, il se pencha vers son grand vicaire pour lui dire quelques mots. Ce grand vicaire était M. Mailloux, qui lui avait conseillé de venir parmi nous en l'assurant d'un succès aisé et complet et qui avait poussé l'évêque Smith à rejeter notre soumission. Il se leva et cria au peuple dont il était bien connu. « Mes chers compatriotes, votre saint évêque vient vous visiter. Mettez-vous à genoux, il vous donnera sa bénédiction. » Mais pas un genou ne se plia. Pensant qu'il n'avait pas été entendu, il haussa encore la voix et répéta son injonction, mais en vain. Personne ne voulut recevoir la bénédiction épiscopale. Tout à coup, une voix s'éleva du milieu de la foule. Ignorez-vous que nous ne plions plus le genou devant les hommes, mais que nous adorons Dieu seul à Sainte-Anne ? Et la foule acclama ces paroles. Une larme de joie s'échappa de mes yeux et je bénis Dieu du fond de mon cœur pour cette première victoire. Je sentais cependant que ce n'était là qu'une escarmouche et que le vrai combat n'était pas encore commencé. Je conjurai donc le Seigneur de nous couvrir de sa protection et de nous donner sa sagesse et sa force jusqu'à la fin. Puis, je regardai de nouveau l'évêque et en voyant sur sa figure les marques de la désolation et de la terreur, je l'assurai de nouveau qu'il n'avait aucun danger à craindre et lui offris encore ma main, mais il la refusa avec dédain. Il accepta cependant mon invitation à monter sur la plateforme d'où il serait mieux entendu de la foule. Lorsqu'il eut franchi à peu près la moitié des marches, s'étant retourné brusquement, il m'aperçut sur ses talons. Il étendit la main pour me repousser et me dit avec dureté. « Je ne veux pas que vous veniez avec moi sur cette plateforme. Laissez-moi seul avec mes prêtres. »« Il peut se faire, lui répondis-je, que vous n'aimiez pas à me voir à vos côtés, mais je veux y être pour vous répondre. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ici chez vous, mais chez moi. » Il se tut prudemment et je lui offris une place sur le sofa. Il refusa et prit un fauteuil plus commun au milieu de ses prêtres. Je lui dis alors d'une voix assez forte pour être entendu de tous. « Monseigneur, le peuple et le pasteur de Sainte-Anne vous assurent que c'est avec grand plaisir qu'ils voient votre grandeur au milieu d'eux. Nous écouterons avec attention ce que vous avez à nous dire à la condition que nous ayons le droit de vous répondre. » Il répliqua avec aigreur quelques mots, puis, s'avançant au bord de la plateforme, il commença d'une voix tremblante et émue un discours en assez bon français. Mais jamais je n'ai rien entendu d'aussi insignifiant, d'aussi faible que cette longue adresse. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'arriva à prouver rien de ce qu'il avait promis. Ses arguments furent souverainement ridicules et tout ce qu'il dit était si puéril que sa voix fut souvent couverte par les éclats de rire de ses auditeurs. Et que 2 ou 3 fois, malgré mes efforts, plusieurs lui crièrent que ce qu'il disait n'était pas conforme aux Saintes Écritures. Avant de terminer son discours, il se tourna vers moi. « Vous êtes un méchant prêtre, rebelle à votre Sainte Église. Éloignez-vous d'ici. Allez faire pénitence de vos péchés dans un monastère. Vous prétendez que vous n'avez jamais été excommunié légalement, vous ne pourrez plus le dire à l'avenir, car je vous excommunie à cette heure devant tout ce peuple. » Je l'interrompis. « Vous oubliez, Monseigneur, que vous n'avez pas le droit d'excommunier un homme qui n'appartient plus à votre Église. Ignorez-vous que j'en suis sorti depuis longtemps ?» L'évêque s'aperçut de sa folie et resta quelque temps sans mot dire. Puis, il reprit la parole avec vivacité, presque avec éloquence, dépeignant la douleur de nos parents à cause de notre apostasie. Lorsqu'il cessa de parler, un profond silence lui répondit. Était-ce la preuve qu'il avait fait une impression réelle sur son auditoire ? Ou était-ce le silence qui précède la tempête ? Je n'en savais rien, mais je dois avouer que, quoique je n'eusse pas perdu ma confiance en Dieu, je n'étais pas absolument sans inquiétude. d'ardentes prières s'élevaient vers le ciel de mon cœur, ému et tremblant. J'aurais pu répondre à l'évêque et le confondre d'une parole, mais je crus qu'il valait mieux laisser le peuple répondre lui-même. L'évêque, espérant que ce long silence prouvait qu'il avait touché quelques-unes des cordes les plus sensibles de leur cœur et qu'il allait les amener à se soumettre, reprit avec une véritable puissance d'expression. « Mes chers Canadiens, je vous le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de vos mères et de vos pères désolés, au nom de votre beau et cher Canada, dites-moi qui vous conduira désormais dans les voies de Dieu, maintenant que vous avez abandonné l'église de vos pères, l'église de votre patrie ?» Cet appel ne reçut aucune réponse immédiate, mais le silence fut bientôt interrompu. J'avais prié les gens d'apporter leur Bible avec eux. Voici qu'un homme, du milieu de la foule, élevant sa Bible de ses deux mains au-dessus de sa tête, s'écria. « Nous n'avons besoin que de la Sainte Bible pour nous montrer le chemin du ciel et nous apprendre nos devoirs envers Dieu. Nous n'avons pas besoin de vous. » Et plus de 5000 voix répondirent « Amen » à ces nobles paroles. L'évêque fut frappé comme d'un coup de foudre. Il lui sembla entendre le glas de la mort de son église. La bataille était finie. Il l'avait perdue. Baigné de larmes, étouffé de sanglots, il s'affaissa sur sa chaise où je craignis qu'il ne se trouvât mal. Lorsque je vis qu'il reprenait ses forces et qu'il était capable de m'entendre, je m'avançai au bord de la plateforme, mais je n'avais pas dit deux mots que je sentis comme les griffes d'un tigre s'abattre sur mon épaule droite. Je me retournai et vis l'évêque dont les doigts crispés me secouaient violemment. Sa figure était livide, ses yeux comme ceux d'un léopard qui se jette sur sa proie. D'une voix furieuse qui fut entendue de toute la foule, il me criait. « Je vous défends de parler. Allez-vous-en de là !» J'allais répondre, mais je restais pétrifié à la vue d'un spectacle qu'aucune plume ne pourra jamais décrire. Ceux-là seuls qui ont vu les vagues mugissantes de la mer soulevées par un ouragan peuvent s'en faire une idée. Le peuple avait vu la main de l'évêque levée contre moi. Il avait entendu sa parole de rage, alors de tous côtés, on n'entendit plus qu'un grand bruit. On ne vit plus que la plus affreuse confusion. « Le misérable » s'écriait-on. « Jetez-le à terre ! À bas le tyran !» En même temps que ces cris se faisaient entendre, une multitude s'élançait vers l'escalier pour arracher l'évêque de la plateforme. D'autres essayaient de la démolir pour se saisir de l'évêque. J'essayais en vain de calmer cette tempête, mais on ne m'entendait plus. Je m'élançais alors vers l'escalier et repoussais de toutes mes forces ceux qui voulaient le gravir. J'étais saisi de terreur en voyant mon impuissance à maîtriser ces flots courroucés. Je pensais tout à coup à un jeune homme nommé Béchard, dont l'éloquente parole m'avait souvent rendu d'éminents services et dont je savais l'influence irrésistible sur le peuple. Je l'appelais et le conjurais de m'aider à apaiser la foule. Dieu soit loué. À peine eut-il montré sa belle figure et étendu la main que le tumulte cessa. Avec éloquence, il montra comment nous devrions être heureux et fiers de ce qui venait de se passer. L'évêque ne venait-il pas de nous prouver que nous avions bien fait de briser son joug de fer? Ne venions-nous pas de voir d'une manière éclatante que des hommes libres, rachetés par le Christ, ne pouvaient plus servir de pareils maîtres? Il montra comment nous venions de remporter la plus éclatante victoire et exhorta la foule à se montrer généreuse et magnanime envers le vaincu. Voyant que le peuple désirait aussi m'entendre, je pris la parole. Au lieu de vous laisser aller à la colère contre cet homme, vous devez le remercier et bénir Dieu avec moi, de ce qu'il est venu parmi nous. Vous l'avez entendu. Dites-moi s'il a pu apporter une seule raison acceptable pour vous soumettre à son autorité plutôt qu'à celle du Christ. Ne vous a-t-il pas montré qu'il n'est pas l'ambassadeur du Dieu qui a tant aimé le monde jusqu'à envoyer son Fils unique pour nous sauver? Vous a-t-il parlé du salut, du pardon des péchés, de la vie éternelle, comme d'un don offert gratuitement à tous ceux qui s'y repentent, qui croient en Dieu et invoquent son nom? Avez-vous entendu quelque chose qui vous fasse regretter d'avoir secoué le joug de Rome? Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de le remercier d'être venu vous affermir dans la voie où vous êtes entré et de le laisser aller en paix. « Oui !» cria la multitude, « qu'il s'en aille en paix, mais qu'il ne revienne plus !» Alors M. Béchard, se découvrant, éleva sa voix puissante et harmonieuse. « Habitants de Sainte-Anne, vous venez de remporter une des plus belles victoires que jamais peuple ait gagnée sur ces tyrans. Hourra pour Sainte-Anne, le tombeau de la tyrannie des évêques !» Et tout le peuple de répéter ce cri avec un enthousiasme frénétique. Me tournant alors vers l'évêque et vers ses prêtres, je leur dis : Vous voyez que ces gens vous pardonnent l'outrage que vous avez voulu leur faire subir, mais je vous conseille de partir le plus tôt possible. Je vais vous accompagner jusqu'à votre carrosse, vous n'avez rien à craindre. » La foule, ouvrant alors ses rangs, laissa passer l'évêque et ses prêtres en gardant le plus profond silence, lequel ne fut interrompu que par quelques femmes qui lui dirent en le touchant légèrement : Allez-vous-en et ne revenez plus, car nous ne voulons plus invoquer d'autre nom que celui de Jésus-Christ. » Les larmes de l'évêque étaient vraiment pénibles à voir, pendant qu'il montait en carrosse. Sa figure naturellement belle était devenue méconnaissable par la terreur, la honte, la colère. Pendant que son âme altière était anéantie, brisée par l'humiliation, sa raison recevait un choc dont elle ne se releva pas. Il s'éloigna de nous et alla tomber rapidement dans l'idiotisme et la folie, et est encore aujourd'hui enfermé dans un asile d'aliénés.